Le journal, Laurence Thomas, bonjour.
Bonjour à tous. Dans ce journal, la contre-attaque de Jean Nouvel. Le célèbre architecte poursuit en justice la Cité de la Musique, la Philharmonie de Paris, mais cette fois au pénal. Il l'accuse de faux en écriture et de double comptabilité. Amélioration du trafic SNCF, perturbation limitée au TER et intercité, mais le conflit entre syndicats et direction sur les problèmes de sécurité n'est pas réglé. Du jamais vu depuis la dictature de Pinochet au Chili, 7 morts dans les émeutes, le président déclare le pays en guerre. C'est l'événement culturel de l'automne parisien, la rétrospective Léonard de Vinci au Louvre. Mais attention, réservation obligatoire.
Et puis au micro de Léa Salamé dans 20 minutes à 7h50. Aujourd'hui, la comédienne Charlotte Gainsbourg et le réalisateur Yvan Attal pour le film Mon chien stupide.
France Inter.
Et entre l'architecte Jean Nouvel et la Philharmonie de Paris, Laurence, la guerre est déclarée.
C'est une information France Inter avec le journal Le Monde. Après des années de mésentente, l'architecte a décidé de porter plainte contre le complexe musical pour malversation et favoritisme. Au cœur du conflit, une facture de 110 millions d'euros de pénalité de retard que la Philharmonie réclame à Jean Nouvel. Le plus coûteux des derniers chantiers de la République à la porte de la Villette s'est achevé en 2015 avec 3 ans de retard. Mais l'architecte estime que ces retards ont été causés par les turpitudes de la Philharmonie, Jean-Philippe Degnaud.
La Philharmonie, c'est un chantier qui donne le tournis, estimé à 118 millions d'euros au stade du projet. Le bâtiment aura finalement coûté 386 millions. 6 ans de travaux, dont la moitié de mise à l'arrêt. Depuis le début, Jean Nouvel rejette la responsabilité de tous ces dépassements sur la Philharmonie, le maître d'ouvrage qui aurait détourné son projet. Mais aujourd'hui, dans sa plainte, l'architecte va encore plus loin en dénonçant tout un système de faux en écriture, de double comptabilité et même un accord secret entre la Philharmonie et les entreprises pour qu'elle reste solidaire en cas d'action judiciaire de sa part.
On est dans un thriller politico-financier.
Maître William Bourdon, l'avocat de Jean Nouvel.
On est dans une histoire folle. Jean Nouvel en a assez. Il a tout entrepris pour essayer de favoriser un accord, parce qu'il savait que c'était l'intérêt de tout le monde. Et puis face à cet acharnement, a tenté de lui imposer de façon tout à fait artificielle des sommes folles, pour masquer l'incurie et l'irresponsabilité de la Philharmonie et de ses acteurs, il s'est résolu à déposer plainte.
Et si Jean Nouvel devait rembourser les 110 millions d'euros de pénalités que lui réclame la Philharmonie, ce serait l'anéantissement de son agence d'architecture, estime l'avocat.
La Philharmonie de Paris qui n'a pas souhaité s'exprimer sur cette affaire que vous pouvez retrouver sur franceinter.fr. À la SNCF, reprise progressive du trafic après 3 jours de perturbation. Et ce sera la justice de dire si ce droit de retrait exercé par les cheminots était tout non valide. Guillaume Pépi, le patron de la SNCF, a promis que tous les billets de train, sans exception, seront intégralement remboursés à 100%. Reste que ce mouvement des cheminots Maxime Debs risque de coûter très cher à l'entreprise publique.
Il est encore trop tôt pour avancer un chiffre précis, mais la calculette a déjà commencé à chauffer au siège de la SNCF. Tout ça devrait se compter en millions d'euros. Un coup dur pour l'entreprise publique qui avait déjà perdu beaucoup dans la grève longue du printemps l'an dernier. À l'époque, le préjudice au bout de 3 mois de conflit s'était élevé à près de 800 millions d'euros. Là, il est certes question de 3 jours seulement, mais quand même, la SNCF s'en serait bien passée, alors qu'il y a 3 semaines à peine, son président Guillaume Pépi se félicitait des excellents résultats, plus 7% de chiffre d'affaires réalisé cet été. Hier, ce même Guillaume Pépi, forcément moins enthousiaste, a dû annoncer le remboursement intégral des billets et la création d'un fonds d'indemnisation d'1 million d'euros pour les usagers ayant perdu une nuit d'hôtel en pleine période de vacances, alors que les trains affichés complets, le coût est rude. Il le serait encore plus si la direction devait effectivement payer les jours aux cheminots n'ayant pas travaillé, d'où l'importance de la bataille juridique qui s'annonce pour savoir si le droit de retrait était, oui ou non, justifié.
Négociés ou non, les salariés de General Electric doivent décider de leur sort ce matin. Ils votent aujourd'hui pour savoir s'ils acceptent ou non le plan présenté par la direction. Contre 485 suppressions d'emplois au lieu de 792, la direction leur demande de gros sacrifices. Un plan que la CGT refuse en bloc, contrairement aux syndicats majoritaires, CFE-CGC et Sud, qui se disent favorables à ce plan. Adeline Diffou.
Des rires autour d'un café derrière un feu qui crépite. L'ambiance est plutôt bonne sur le piquet de grève pour les quelques salariés présents. Mais au fond, certains n'y croient plus vraiment, comme Jimmy qui n'ira pas voter ce matin.
Moi, pour moi, c'est foutu. De toute façon, c'est juste déplacer le problème. On va attendre un peu l'échéance finale, quoi.
Denis non plus ne se rendra pas au vote. Il estime que le système de la main levée n'est ni représentatif ni juste.
S'ils font un vote, vraiment en bureau, où là on peut vraiment donner notre avis, où tout le monde sera écouté, oui. Mais là, il y a les gens, s'ils sont pas là, ils vont pas lever la main. Il y a des gens, ils vont être forcément un petit peu influencés. Un tel a levé la main, moi je sais pas si je vais lever la main.
Les piquets de grève installés à l'entrée des sites de Belfort et Bourgogne depuis le 8 octobre doivent normalement être levés à midi à l'issue du vote. Mais le combat n'est pas fini, estime Stéphane, délégué CGT.
C'est qu'un commencement. On va lutter autrement, on va faire des actions, on va défendre les copains qui seront en danger. Parce que je pense qu'ils viendront quand même nous taquiner.
Quoi comme action par exemple?
Je sais pas, on verra avec les camarades. C'est les gens qui choisissent, c'est pas nous, on les accompagne.
Plus qu'à attendre l'avis des salariés sur le sujet ce matin. S'ils disent oui au dernier accord proposé par la direction, les syndicats pourront rouvrir les négociations jusqu'à fin novembre.
Et si la réponse est négative, la direction déposera son plan initial de 800 suppressions d'emplois. À l'étranger, ces émeutes au Chili. 7 morts, c'est la pire explosion sociale qu'ait connue le pays depuis des décennies. Le Chili, depuis 48 heures, sous couvre feu et état d'urgence. 10 000 policiers et soldats déployés dans les rues du jamais vu depuis la fin de la dictature Pinochet. Au départ de la contestation, une hausse du prix du ticket de métro, dont le réseau est le plus étendu d'Amérique du Sud. Il transporte chaque jour 3 millions de passagers. En Bolivie, pour la première fois depuis son élection en 2005, Evo Morales, le président, n'a pas obtenu la majorité absolue au premier tour. Il n'est pas certain de remporter la présidentielle. Morales est talonné par son adversaire, le principal adversaire, le centriste Carlos Mesa, qui a fait campagne contre la corruption et le virage autoritaire du pouvoir. Au Royaume-Uni, grande incertitude sur la manière dont le pays va sortir de l'UE. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a martelé hier encore que le Brexit aurait bien lieu le 31 octobre comme prévu. Bruxelles se donne le temps de la réflexion. En attendant de savoir si l'UE décide ou non d'un report, les Brexiteurs trépignent. Illustration de cette frustration à Stoke-on-Trent, ville des Midlands, où plus de 2/3 des électeurs ont voté pour la sortie de l'Union. Reportage de Cécile de Kersbazul.
Le parc de la ville est toujours plein le dimanche. C'est un loisir qui ne coûte pas cher, me glisse Carl, venu y faire courir ses enfants. Car ici, vous savez, les gens ont peu de choses. C'est bien pour ça qu'ils sont brexiteurs.
Les gens qui ont de l'argent veulent rester dans l'Union européenne. Ceux qui n'ont pas d'argent veulent la quitter, car ils n'y trouvent pas d'opportunités en termes de boulot.
Dans cette ville où les industries ont fermé, où l'immobilier s'est effondré, le nouveau report du Brexit cristallise toutes les frustrations. Wayne fait jouer sa fille sur une balançoire.
C'est un gros gâchis et c'est révoltant. Ça devrait être réglé. Les gens ont voté, nous devrions avoir un accord, mais les députés l'empêchent. J'en ai assez de leurs mensonges, de leurs disputes permanentes, alors qu'il y a tant à faire pour le pays.
Rejet des parlementaires, rejet des londoniens, les habitants de Stoke n'ont pas changé d'avis sur le Brexit. Au contraire même, s'inquiète Rob, un retraité brexiteur de longue date.
Je pense qu'en 3 ans, les gens ont perdu confiance dans leurs représentants et dans notre système politique. Je ne cesse de le voir sur les réseaux. Vivement les prochaines élections qu'on se débarrasse de ces parlementaires. Mais quelle que soit la suite, le pays est si divisé que personne ne sera satisfait. Alors il pourrait y avoir des révoltes dans la rue.
Et comme la plupart des promeneurs du parc, il conclut, notre seul espoir aujourd'hui, c'est Boris Johnson.
Ce devait être un moment majeur pour les éditeurs de presse. L'entrée en vigueur jeudi prochain de la loi sur les droits voisins, transposition d'une directive européenne sur le droit d'auteur qui doit permettre aux médias d'être mieux rémunérés par Google, Facebook pour l'utilisation en ligne de leur contenu. Sauf que Google a déjà annoncé la couleur. Alexandra Hakoun, le moteur de recherche américain, ne veut pas payer et il a trouvé la parade.
Google n'en a jamais fait un secret, directive ou loi sur les droits voisins. Il n'en a jamais voulu. Le géant américain a donc trouvé la brèche lui permettant de s'en exonérer. Désormais, les résultats d'une recherche ne montreront que le titre d'un article et son lien, qui eux ne sont pas protégés par le droit voisin. Mais si l'éditeur souhaite revenir à une configuration plus classique, avec un court extrait, une vignette, une photo, il devra le notifier à Google et renoncer à la rémunération associée. Un marché de dupes de la part d'un acteur sûr de sa toute-puissance, estime le PDG du groupe Le Parisien Les Échos, Pierre Louette.
30 à 40% de notre trafic chez les éditeurs de presse vient de Google. Aujourd'hui, ils disent on est au-dessus des lois. Il y a une loi européenne, on va s'asseoir dessus, franchement, on va pas l'appliquer, et nous, on va modifier notre produit de façon à ne pas devoir appliquer cette loi. Quand on a un acteur qui ne veut pas qu'une loi votée par le pouvoir parlementaire européen et national vive, on a un gros problème.
Une position largement partagée par Emmanuel Macron, qui a d'ores et déjà prévenu, la France ne se laissera pas faire.
Nous demandons aux autorités nationales et européennes de la concurrence d'examiner et d'engager au plus vite toutes les procédures possibles. Et au-delà, j'ai proposé que nous développions au niveau européen de nouvelles règles pour réguler les grandes plateformes avec des mécanismes de sanctions plus rapides face à des propositions qui jusqu'ici ont été inacceptables.
Les éditeurs de presse, eux, présenteront leur riposte jeudi matin.
Il est 7h39, 540 000 visiteurs au moins. Le Louvre est dans les starting blocks, Laurence, pour son grand événement de l'automne.
Avec la rétrospective Léonard de Vinci, le musée espère battre le record de l'exposition Eugène Delacroix. Énorme affluence en vue à partir de jeudi. Les réservations ont commencé depuis juin dernier, car pour éviter toute affluence au même moment, la réservation est obligatoire, à la fois une question de sécurité et de confort de visite pour tous ceux qui vont se presser pour voir les 163 œuvres du peintre le plus célèbre au monde, dont l'homme de Vitruve, installé, arrivé ce week-end, Jacqueline Pétrose.
Pas de possibilité de voir l'exposition Léonard si vous n'avez pas réservé votre billet. Pour éviter embouteillage et files d'attente sans fin, elle permet de lisser les visites sur l'ensemble de la journée. Les salles du Hall Napoléon où se tient l'exposition peuvent certes accueillir jusqu'à 5000 personnes par jour et même 7000 en cas de nocturne, mais pour éviter l'asphyxie et pour la bonne conservation des chefs-d'œuvre de Léonard, le nombre de visiteurs est compté avec l'expérience des précédents succès. Vincent Delieuvin, l'un des commissaires de l'exposition.
Pour Delacroix, qui est vraiment notre record de fréquentation, on a eu 540 000 visiteurs pour une période à peu près équivalente, donc on imagine que Léonard, ça sera autour de ces eaux-là, environ entre 500 et 600 000 visiteurs. Nos salles d'exposition ne sont pas des espaces immenses, donc on peut être au même moment environ 500 personnes dans l'exposition.
Les réservations se font par créneau d'une demi-heure. Vendredi, 180 000 billets avaient déjà été réservés, mais il reste encore de nombreuses possibilités, en particulier à l'heure du déjeuner. Évitez l'heure d'ouverture du musée et le tout début d'après-midi. Mais attention, bien que l'exposition se tienne jusqu'au 24 février 2020, avec l'ouverture au public jeudi et la couverture médiatique, les places vont sans doute s'envoler à toute vitesse.
Et ajoutons que les réservations peuvent se faire, bien sûr, sur le site du Louvre ou sur les nombreux autres sites organisateurs de visites.
Merci Laurence Thomas.